Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. L'inconvénient et protégez-vous. Au programme, revoir mon oncle Antoine et autres films peu fréquentables. Et des habitudes de lavage à revoir. Bonne écoute.
Revoir mon oncle Antoine et autres films peu fréquentables. Un texte de Georges Privet, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. Le cinéma contemporain a bien des qualités. Il a toutefois, à mon avis, un gros défaut. Il ne s'intéresse plus à ce que son époque trouve condamnable, répréhensible ou peu fréquentable. Et c'est bien dommage, car une des plus grandes forces du cinéma est justement sa capacité à nous faire voir le monde à travers les yeux d'un autre, qu'il s'agisse d'un chauffeur de taxi psychotique dans Taxi Driver, d'une jeune crapule et de sa bande de voyous dans A Clockwork Orange, d'un voyeur dangereusement obsessif dans Peeping Tom, ou même d'un meurtrier d'enfants dans Monsieur le Maudit. Des personnages peu fréquentables, voire carrément monstrueux, mais que les cinéphiles ont jadis suivis et suivent encore avec passion, en comprenant instinctivement que, par une alchimie étrange, propre au cinéma, leurs errances révèlent quelque chose des nôtres, de notre humanité commune, partagée qu'on le veuille ou non. Comme la famille Corleone dans The Godfather, que des générations de spectateurs ont embrassé, malgré ses crimes innommables, comme si cette famille était des nôtres, ce qu'elle est, effectivement, d'une certaine manière. Reconnaître l'universel dans l'inavouable, l'humain dans le monstrueux, et chercher à le comprendre sans pour autant l'approuver, était une des missions traditionnelles de l'art. Elle contribuait à fournir ce qu'Aristote désignait comme la catharsis, la purgation des passions. Tentant de décrire la nature particulière du cinéma, Hitchcock expliqua jadis qu'en voyant un voleur cambrioler une maison la nuit, les spectateurs s'identifiaient spontanément au voleur qui risquait d'être surpris plutôt qu'aux braves gens qu'il était en train de cambrioler. Cela a quelque chose à voir avec l'aspect onirique de l'expérience cinématographique, gigantesque rêve collectif partagé dans l'obscurité, où le surmoi rend les armes face à l'inconscient comme il se doit face à toute œuvre d'art. Le cinéma a toujours exploré cette caractéristique en creusant la face cachée, sombre et parfois inavouable de nombreux personnages légendaires. Du pédophile obsédé de Lolita aux cowboys ultra-violents de Wild Bunch, en passant par les amants torturés de l'Empire des Sens et du dernier tango à Paris. Or, quand je parle aujourd'hui de ces films, je suis bien obligé de constater qu'ils sont désormais souvent vus comme moralement douteux ou condamnables. Qu'après avoir été considérés comme des piliers essentiels du cinéma mondial, ils sont désormais jugés comme porteurs de comportements ou de valeurs irrecevables, soit à cause des controverses, fondées ou non, qui entourent désormais leurs auteurs, de Jutras à Bertolucci et de Woody Allen à Polanski, soit parce que leurs sujets sont désormais sentis comme étant toxiques, Mort à Venise, Pretty Baby, The Devils, Straw Dogs. La liste est longue et remplit les rayons des plus grandes cinémathèques du monde. Comment ces films qui jadis faisaient les beaux jours des salles de répertoire sont-ils devenus à nos yeux douteux et peu recommandables? Et comment cela a-t-il pu se produire de manière aussi rapide et uniforme? Difficile à dire. Mais ce phénomène est peut-être lié à la tendance qui, de nos jours, consiste à évaluer un film pour sa capacité à embrasser les valeurs et les idées du moment au détriment de ses qualités intrinsèques et purement cinématographiques. Quand Pauline Kael consacrait en 1972 quelque 2700 mots à Straw Dogs, qu'elle décrivait comme un chef-d'œuvre fasciste, elle prenait bien soin d'établir une distinction entre ce qu'elle percevait, à tort à mon avis, comme étant le discours de Peckinpah et l'extraordinaire maîtrise formelle dont sa mise en scène témoignait à chaque instant. Elle pouvait à la fois saluer la précision éblouissante de ses ralentis quasi subliminaux, l'incroyable dextérité de ses montages parallèles, la subtilité avec laquelle il parvenait à communiquer des idées et des sensations complexes par la juxtaposition minutieuse de sons et d'images, et déplorer, finalement, le positionnement moral de ce qui lui semblait être une œuvre fondamentalement réactionnaire et répréhensible. Qu'on soit d'accord ou non avec Cale, force est d'admettre que la critique ne fait plus ce travail-là aujourd'hui, qu'elle n'analyse plus les tensions fertiles entre le fond et la forme, qu'elle ne creuse plus les paradoxes entre ce qu'un film dit et ce qu'il montre, qu'elle n'explore plus le rapport complexe existant entre ce qu'un film cherche à communiquer et les moyens formels qu'il déploie pour le faire. Comme si un film se limitait désormais à sa déclaration d'intention, à la justesse de ce qu'il proclame et des valeurs qu'il épouse, voire à son seul sujet. Ce qui amène parfois à des jugements vite faits, sans recul ni nuance. Aujourd'hui, l'espace dévolu à la critique est plus étroit et le temps laissé à l'écriture moins long. La consommation des commentaires se fait de plus en plus rapidement et les lieux voués à l'expression de points de vue différents se font de plus en plus rares. Tout va dans le sens de la brièveté, de l'appréciation unanime, du pouce levé ou baissé instantanément dans les médias sociaux. L'époque ne tend plus à l'exploration de l'ambiguïté, des contradictions, des paradoxes de l'âme humaine ou de son rapport au monde. Au contraire, le cinéma tend aujourd'hui à favoriser l'univoque, à afficher des modèles et des porte-étendards, à prôner des comportements et des valeurs qui se veulent exemplaires. Un peu comme si le cinéma était devenu un lieu de prise de parole, d'affirmation et de revendication davantage qu'un espace d'investigation, de quête. Un porte-voix plutôt qu'un scalpel. Les réseaux sociaux construisent des consensus, écrasent les dissensions, font mine de favoriser la diversité tout en réprimant les opinions différentes. L'ensemble force des unanimités contre lesquelles il est difficile de lutter et tend à déformer des prises de position complexes ou nuancées. Le tout grâce à un fonctionnement communicationnel d'autant plus puissant qu'il est invisible et d'autant plus efficace qu'il est intégré par tous en permanence. Le système est à l'affût de tout ce qui dépasse, fait tâche, va à rebrousse-poil, bref, de tout ce qui était traditionnellement du domaine de l'art, l'ambiguïté, le mystère, la différence. D'où, fatalement, une culture qui marche sur des œufs, avec des artistes qui craignent constamment d'être pris en défaut parce qu'ils abordent un sujet risqué, ou parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le droit de s'y attaquer, ou parce qu'ils l'explorent ou comptent l'explorer d'une manière qui pose problème à quelqu'un, quelque part. Vous écoutez « Revoir mon oncle Antoine et autres films peu fréquentables », un texte de Georges Privet, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. Face à cette nouvelle réalité, faite de consensus lénifiant, la critique n'a souvent plus l'espace, l'envie ou même, dans certains cas, la capacité d'analyser des œuvres un tant soit peu complexes. Son rôle social, devenu pour l'essentiel celui d'un guide de consommation, se borne désormais à applaudir ce qui va dans le sens du courant et à proscrire ce qui va dans le sens inverse. L'ancienne critique d'humeur, qui avait remplacé la critique d'analyse, a elle-même été remplacée par une critique dite « morale », une tâche pour laquelle elle s'avère encore moins bien équipée que pour les deux autres. Dans un tel climat de censure, à la fois inconsciente et parfaitement intégrée, peu de gens sont prêts à courir le risque quasi inévitable d'être mal interprétés. un film sur une femme abusée comme Mother de Darren Aronofsky risque facilement de passer pour le film d'un abuseur de femmes. Un autre sur un désaxé comme The House That Jack Built de Lars von Trier tend à être rapidement décrit comme l'œuvre d'un esprit troublé, et une réflexion sur l'hypersexualisation des adolescentes comme Mignonne de Maimouna Doucouré risque fort d'être accusée d'hypersexualiser ses sujets. Bref, il faut avoir les nerfs solides aujourd'hui pour oser s'attaquer à des sujets risqués, car on tend désormais à confondre l'exploration d'un sujet avec le fait de l'endosser, voire de le célébrer. Pas étonnant que plusieurs se tournent vers des projets moins controversés, aux prises de risques plus millimétrés. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir un cinéaste se vanter de son tournage vert et de la réduction de son empreinte carbone. Cela est généralement sincère, sera peut-être utile et alimente sans nul doute des médias en mal de sujet. Mais je préférerais que les cinéastes se soucient un peu plus des répercussions tout aussi dommageables de leurs films consensuels sur l'environnement culturel de l'époque. Car ce climat affecte désormais, qu'on le veuille ou non, la manière même dont on fait, conçoit, voit ou même ose revoir les films. Aujourd'hui, il y a des sujets, des personnages, des thèmes qu'on ne se hasarde plus à aborder, comme des terres ensevelies ou submergées devenues si risquées que les cinéastes n'osent tout simplement plus s'y aventurer, à tel point qu'il est désormais inconcevable d'imaginer des œuvres comme celles, pourtant jadis incontournables, des cinéastes Louis Malle, Luis Buñuel, Marco Ferreri ou Pier Paolo Pasolini, pour ne mentionner que ceux-là. Il n'est d'ailleurs plus nécessaire d'avoir un passé trouble ou d'aborder des sujets controversés pour être mis à l'index. Entre les charges d'appropriation culturelle, les ragots de tournage et une réputation de perfectionniste maniaque, on a même trouvé le moyen de cibler les méthodes de travail d'artistes tels que Robert Lepage, Abdel Latif Kechiche ou Stanley Kubrick. Et puis le climat ambiant n'affecte pas que les films qui se font aujourd'hui. Il touche aussi ceux d'autres époques que l'on revoit ou que l'on n'ose plus présenter aujourd'hui. Il est maintenant difficile de voir Tippi Hedren dans The Birds sans penser aux tortures que Hitchcock lui aurait infligées pendant le tournage, ou de revoir les films de Polanski sans sourciller devant leurs nombreuses références au viol qui rappellent les accusations portées contre le cinéaste, ou de chercher dans les visages d'enfants qui traversent mon oncle Antoine ceux des victimes présumées de Claude Jutras. Difficile, certes, mais pas impossible. De la même manière qu'on peut relire Alice au pays des merveilles sans être obsédé par la fascination inavouable de Lewis Carroll pour les fillettes, ou contempler la Joconde sans penser aux passions pédophiles de Léonard de Vinci, ou revoir les portraits de Picasso sans qu'il soit éclipsé par sa réputation de macho violent. Car une œuvre n'est pas que la somme de ce que l'on sait ou croit savoir sur son auteur. 5 minutes après le début de Mon oncle Antoine, on ne cherche plus ce que le film peut nous révéler sur son auteur, mais on est ému par ce qu'il peut encore dire sur nous, sur nos liens profonds avec le Québec d'une autre époque, son goût de la fête et de l'oubli, sa dureté et ses silences. Un Québec où les hommes fuient, évitent, faiblissent, où les enfants échangent des regards secrets et complices, où la nuit, l'alcool et la neige taisent 1001 crimes. La suie et les flocons se mêlent dans la neige qui tombe du ciel. Un boss anglais jette en traîneau des cadeaux devant les maisons de la ville. Le bruit d'une explosion minière accompagne l'entrée d'une beauté locale au magasin général. On manipule les cadavres avec aisance, tandis qu'on garde les vivants à distance. On célèbre bruyamment la mort, tandis que le désir se vit en secret et en silence. Un silence de mort, c'est le cas de le dire, dans lequel baigne cet étrange conte des fêtes sur un garçon qui découvre en 24 heures qu'il est seul au monde. Le film devait originalement s'appeler Silent Night, et ça se sent, à travers le portrait de la grande nuit silencieuse de l'ère duplessiste, à travers tout ce que son jeune héros taiseux observe de caché et d'interdit, à travers ses regards qui disent constamment les abandons et l'absence d'amour qu'il a subi. On cherche en vain Jutra, l'abuseur, dans ce film qui montre en fait un Québec abusé depuis toujours. On le cherche en vain, car il est à la fois partout et nulle part. Dans ce qui est caché et dans ce qui est montré, dans le regard des adultes qui abandonnent les enfants comme dans celui des enfants qu'ils ont abandonnés. Ceux qui se privent de voir ou de revoir mon oncle Antoine ne punissent pas plus Jutra qu'ils ne viennent en aide à ses victimes. Ils se privent tout simplement et douloureusement d'une œuvre qui, comme toutes celles évoquées dans cette chronique, pourrait peut-être les aider à vivre, à comprendre le monde dans toute sa complexité, ses paradoxes, ses horreurs et ses beautés. Comme tous les artistes, les cinéastes ne travaillent pas qu'avec leurs qualités, ils travaillent aussi avec leurs défauts. Ils savent qu'ils sont, comme nous tous, capables du meilleur et du pire, qu'ils sont la somme des tiraillements entre les deux, et que ce conflit n'est pas une tare, mais l'essence même de l'humanité. Revoir mon oncle Antoine et tant d'autres grands films aujourd'hui proscrits, c'est revoir une époque où l'on ne craignait pas d'aborder la vie, les êtres et leurs drames de façon complexe, profonde et déchirante. Où l'art cherchait à comprendre au lieu de condamner, explorait aussi bien les ténèbres que la lumière, et démontrait que l'un peut difficilement exister sans l'autre. C'était « Revoir mon oncle Antoine et autres films peu fréquentables », un texte de Georges Privet, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient.
Des habitudes de lavage à revoir. Un texte de Rémi Leroux et Marie-Ève Bergeron, paru le 12 juillet 2022 dans Protégez-vous. Vous souhaitez limiter l'impact environnemental de votre lessive? Voici comment vous y prendre, du choix de la laveuse au séchage des vêtements, en passant par le type de détergent utilisé et la fréquence des lavages. Le lavage occupe une place importante dans le grand cycle de vie d'un vêtement. Or, cette étape, maintes et maintes fois répétée, a des conséquences sur l'environnement. Elle exige en général beaucoup d'eau et d'énergie. Les détergents utilisés peuvent contenir des substances nocives pour la faune et la flore, voire pour la santé humaine. Et l'usure des vêtements synthétiques provoque la dispersion de microplastiques dans les cours d'eau de même que dans les nappes phréatique. Toutefois, le plus grand impact sur l'environnement demeure la production même de vêtements, explique Ronnie Carlson, responsable des tests pour Rad & Ron, un magazine suédois de consommation, membre, comme Protégez-vous, de l'International Consumer Research and Testing, ICRT. L'important consiste avant tout à acheter moins de vêtements et à utiliser plus longtemps ceux que vous possédez. Vous pouvez prolonger la durée de vie de vos jeans, chemises, t-shirts et sous-vêtements de plusieurs façons qui vont du choix de la laveuse à celui du détergent en passant par la fréquence de lavage. En effet, faut-il vraiment laver tous les vêtements après les avoir portés une seule fois? Ce dossier vous présente plusieurs solutions pour choyer votre coton ouaté préféré tout en réduisant l'impact environnemental de vos brassées. Notre test de détergent, nos conseils pour repérer les produits écologiques et notre article sur les fibres à microplastiques constituent un excellent point de départ. L'usage et l'entretien des vêtements. Selon le rapport Fashion on Climate, publié en 2020, 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de la mode proviennent de l'usage et donc de l'entretien des vêtements. C'est un fait. La laveuse est gourmande en eau et en électricité. Or, si vous lavez votre linge à l'eau chaude, sachez que de 80 à 90% de l'énergie utilisée sert à chauffer l'eau, précise Cendric Bouchard, conseiller en communication à Hydro-Québec. Le séchage a lui aussi des effets importants sur l'environnement. Une sécheuse non seulement est très énergivore, en moyenne 597 kWh par an contre 131 kWh par an pour une laveuse, selon les données d'Hydro-Québec, mais elle contribue en outre à la dispersion de microplastiques dans l'atmosphère. Une étude publiée en janvier 2022 par l'American Chemical Society révèle que pour un T-shirt, par exemple, le processus de séchage libère jusqu'à deux fois plus de microfibres que le processus de lavage. Toutefois, dans le cas de vêtements en polyester notamment, les fibres libérées sont des microplastiques qui se répandent dans l'atmosphère, la faune et les cours d'eau et qui peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire ou dans le corps humain. Plusieurs ingrédients qui entrent dans la composition d'un détergent ne sont pas en reste. Les stations d'épuration ne parviennent pas à supprimer totalement leur présence dans les eaux traitées. C'est le cas, par exemple, de certains agents tensioactifs, agents nettoyants comme l'alkylbenzène sulfonique linéaire ou LAS et de solvants qui peuvent se révéler très toxiques pour la vie aquatique. Certains fabricants utilisent par ailleurs des adoucissants et d'autres substances chimiques complexes afin d'adoucir l'eau et d'augmenter l'efficacité des produits, mais plusieurs d'entre eux ne se biodégradent pas ou mal. Phosphonate, polycarboxylate, EDTA. Il y a enfin le cas des parfums, qui n'améliorent pas les performances du détergent et qui peuvent regrouper jusqu'à 200 ingrédients chimiques, tels que des solvants et des plastifiants. Selon un test de détergent à lessive réalisé en 2018 par le magazine italien de consommation Altro Consumo. Détergent en feuilles, une solution écolo? Ces dernières années, plusieurs fabricants ont mis sur le marché des détergents en feuilles. Les entreprises en question affirment que l'absence d'emballage les rend plus écologiques que les détergents en bouteille, en raison notamment du transport qui s'en trouve facilité. En l'absence d'analyse de cycle de vie de ces produits, il est cependant difficile de déterminer si elles disent vrai. C'est un argument populaire chez plusieurs d'entre elles, reconnaît Ronnie Carlson, du magazine suédois Hadenron, qui a analysé certains de ces détergents, mais en général, dans les analyses de cycle de vie, l'incidence du transport est négligeable. Les détergents en feuilles testés par Protégez-vous sont, en outre, à peine plus efficaces que l'eau seule. Cela fait dire à notre confrère suédois que si un détergent comme celui-là n'ajoute rien à l'effet nettoyant du lavage, c'est un gaspillage total de ressources. Bref, il vaut sans doute mieux opter pour un produit liquide vendu en vrac ou encore certifié par une éco-étiquette reconnue, comme Safer Choice ou Eco-Logo. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Des habitudes de lavage à revoir », un texte de Rémi Leroux et Marie-Ève Bergeron, paru le 12 juillet 2022 dans « Protégez-vous ». Les gestes à poser. Pour réduire l'impact environnemental de vos habitudes de lavage, vous pouvez agir sur plusieurs fronts. Par quoi commencer? En utilisant des appareils peu énergivores. Si vous devez changer vos laveuses et sécheuses dans un avenir proche, privilégiez des équipements certifiés Energy Star. Dans notre plus récent test de laveuse, nous recommandons plusieurs modèles qui détiennent cette certification. Une laveuse Energy Star consomme 25 % moins d'énergie en moyenne qu'un modèle classique et 33 % moins d'eau, peut-on lire sur le site Internet de Ressources naturelles Canada. Hydro-Québec rappelle, par ailleurs, sur son site Web, que les laveuses sont plus éco-énergétiques lorsqu'elles sont chargées au maximum. La Société d'État précise que deux petites brassées consomment deux fois plus d'énergie qu'une pleine brassée. Ensuite, il est essentiel de laver le linge à l'eau froide pour limiter la consommation énergétique de l'appareil. Notre test de détergent a été réalisé entièrement à l'eau froide et plusieurs produits ont été très efficaces pour éliminer les taches. Concernant le choix du détergent, privilégiez un produit respectueux de l'environnement. Les entreprises les plus éco-responsables sont celles qui arborent des certifications vérifiées par un organisme indépendant. Méfiez-vous néanmoins des fabricants qui multiplient les allégations environnementales génériques comme « écologiques » ou « non toxiques ». Par ailleurs, privilégiez un détergent vendu en vrac comme l'un de nos bons choix. Une analyse comparative de cycle de vie réalisée en Italie entre le modèle de commercialisation classique, récipient à usage unique, et le modèle rechargeable, récipient réutilisé, en vient à la conclusion que cette dernière option offre plusieurs avantages. Elle permet notamment une réduction de la demande d'énergie et des matériaux nécessaires à la fabrication des récipients, une diminution des émissions de substances toxiques liées à ce processus, et une réduction de la quantité de déchets, entre autres atouts. Il suffit de réutiliser entre 5 et 10 fois en moyenne un contenant pour obtenir de tels bénéfices. Enfin, limiter l'utilisation de la sécheuse est un geste qui a également son importance. Non seulement vous réduisez de façon considérable votre consommation électrique en privilégiant la bonne vieille corde à linge ou le séchoir sur pied, mais vous ralentissez également l'usure de vos vêtements et vous réduisez la quantité de microplastiques que l'appareil est susceptible de répandre dans l'environnement. C'était « Des habitudes de lavage à revoir », un texte de Rémi Leroux et Marie-Ève Bergeron, paru le 12 juillet 2022 dans « Protégez-vous ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Nicolas Zartman à la recherche, à la présentation et au montage.